fait connaître depuis très longtemps par son premier livre, je crois, sur le théâtre du nouveau roman, et qui est maintenant professeur d'études théâtrales à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par nous interroger sur la façon dont Marie Duras était devenue à l'écriture et est venue ensuite au théâtre, puisqu'elle n'était pas d'abord auteur de théâtre. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, venue à l'écriture, elle y est venue pendant la guerre. On l'a retrouvée d'ailleurs. Excusez-moi, j'espère que ma voix passera suffisamment. Petit souci de... Ah, bon, alors. On va essayer, je disais juste que j'avais des problèmes de gorge, mais ça n'est pas grave. Est-ce que c'est mieux ?
Oui.
Donc, elle y est venue finalement assez tôt. Et on a retrouvé il y a quelques années des carnets qu'elle écrivait pendant la guerre. Mais déjà pendant la guerre, elle avait publié ses deux premiers romans en 1943 et en 1944. Deux romans d'ailleurs qui ne sont pas sans lien avec la pièce que nous allons vous présenter aujourd'hui, puisqu'ils mettent déjà en scène le couple, j'allais dire infernal, en tout cas un peu incestueux dans certains côtés et dans les deux romans, de la mère et du fils, qui sont aussi le couple de la propre mère de Marguerite Duras et de son frère, le frère dont on aura l'occasion de reparler, mais qui va aussi jalonner un petit peu toute son œuvre. Donc la pièce « Des journées entières dans les arbres », finalement, elle est déjà en germe dès les premiers romans qu'elle publie en 1943 et 1944. Pour ce qui est de l'arrivée au théâtre, comme souvent pour les écrivains de cette période-là, c'est une arrivée qui s'est faite un petit peu par hasard, qui n'était pas prévue. D'ailleurs, Duras l'a dit, j'ai même fait plancher mes étudiants là-dessus, c'est vous dire que c'est une question qui est complexe à aborder, parce que ce sont des écrivains qui ne sont pas, entre guillemets, programmés pour être des écrivains de théâtre. Je dis des écrivains parce que je pense aussi à quelqu'un comme Nathalie Sarraute. C'est d'ailleurs d'autant plus émouvant que les premières pièces de Sarraute ont été créées dans cette même salle et que la pièce « Des journées entières dans les arbres » a été créée dans la grande salle, juste à côté, il y a de cela 50 ans. Donc c'est presque un double anniversaire que nous fêtons entre les 100 ans de Duras elle-même et les presque 50 ans de « Des journées entières dans les arbres ». Donc la venue au théâtre s'est faite aussi par des comédiens et des metteurs en scène qui lui ont demandé d'écrire pour le théâtre ou qui lui ont proposé d'adapter ses propres textes au théâtre. Ça a été le cas du tout premier texte d'elle qui a été mis en scène, qui est une adaptation du Square, que vous connaissez peut-être, qui se joue d'ailleurs en ce moment, si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'est à l'atelier, c'est à l'atelier, voilà. Donc le Square, qui a été adapté pour la scène en 1956. Donc c'est la toute première manifestation théâtrale de Duras, si l'on veut, à l'initiative d'un comédien, metteur en scène, Claude Martin. Et puis, cette initiative s'est un petit peu reproduite petit à petit, jusqu'à notre pièce qui a été rédigée, est mise en scène en 1965, là aussi, à partir d'un roman qui préexistait, ou plutôt d'une nouvelle qui préexistait, et qui était parue 10 ans plus tôt. Et comme très souvent chez Duras, ce qui est très troublant et ce qui est compliqué aussi quand on édite l'œuvre de Duras, les œuvres ont le même nom. C'est-à-dire que vous avez une œuvre de 55 qui s'appelle « Des journées entières dans les arbres », et une autre 10 ans plus tard qui s'appelle « Des journées entières dans les arbres ». Mais l'une est une nouvelle, et même un recueil de nouvelles, puisque « Des journées entières dans les arbres », c'est un recueil qui comprend cette nouvelle qui s'appelle « Des journées entières dans les arbres », et 10 ans plus tard, une pièce qui s'appelle également « Des journées entières dans les arbres ». La même chose pour le square roman est devenu le square pièce, parfois avec simplement des aménagements, mais les titres ne changent pas. Et pour la romande anglaise, c'est la même chose, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En 67, elle réécrit un de ses textes, elle l'appelle « L'amante anglaise », et l'année suivante, il est monté sous ce titre de « L'amante anglaise », mais encore une fois, avec deux versions légèrement différentes, et une qui se veut plutôt roman, et une autre qui se veut plutôt pièce. On aura peut-être l'occasion de parler d'ailleurs de ce plutôt, puisque Duras a toujours été un petit peu à l'intersection, et c'est ce qui fait d'ailleurs, je crois, l'intérêt de son œuvre et sa force, c'est qu'elle n'est identifiable complètement à aucun genre. Ni d'ailleurs au cinéma, ni au théâtre, ni au roman, il y a toujours une sorte de flottement intergénérique, pour parler un peu pompeusement, entre les différents genres dans lesquels elle travaille. En tout cas, en 1965, elle est déjà relativement connue, elle a déjà publié une bonne dizaine de livres, et puis surtout en 1965, quand la pièce « Des journées entières dans les arbres » est créée, il y a eu cette même année-là deux autres spectacles d'elle qui ont été présentés, ce qui fait que c'est une grande année Duras pour le théâtre. Sa passion pour le théâtre a trouvé là l'occasion de se montrer sous ses différentes facettes. Alors je prends quand même mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises, mais en 1965, nous avons notamment une de ses pièces que j'appellerais personnellement un petit peu des pochades, puisque ce sont des pièces qui sont presque des pastiches de nouveau théâtre, qui ressemblent un petit peu à du Ionesco, tout en étant du Duras, mais celle à laquelle je pense s'appelle « Les eaux et forêts », le titre « Les eaux et forêts » n'ayant aucun rapport avec le sujet de la pièce, si tant est qu'il y a un sujet, c'est exactement comme pour la cantatrice chauve. Donc en 1965, il y a « Les eaux et forêts », et puis, il y a également une pièce que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Musica, qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma, qu'elle a tournée. C'était son premier film. Elle a été assistée d'un réalisateur qui était plus chevronné qu'elle, parce qu'on pensait qu'il fallait quand même lui montrer ce que c'était que le théâtre. Quand on sait qui est Duras, c'est un petit peu drôle a posteriori. Et puis, cette pièce, La Musica, elle l'a même elle-même réécrite une vingtaine d'années plus tard, ce qui a donné une pièce qu'elle a appelée « La Musica deuxième », qui comprend à la fois le texte de la première Musica et puis le texte de la seconde. Et tout ça, donc, enfin, en tout cas, la première Musica, c'est aussi 1965. Donc vous voyez que cette année 1965 est vraiment une année extrêmement riche, qui est d'autant plus intéressante pour nous quand on aborde cette œuvre-là.
Très bien. On vient d'ajouter, je pense que je ne me trompe pas en disant que dans ces romans, et notamment dans la nouvelle « Les journées entières dans les arbres », il y a déjà beaucoup de dialogues. Ces dialogues, d'ailleurs, il y a aussi la voix de Marguerite Duras elle-même, qui aura tendance de plus en plus à dominer tout, mais en même temps, cette voix présente et qui écrase peut-être un peu les autres personnages, comme dans la pièce, « Madame la mère », on l'entend déjà dans la nouvelle, il y a ces dialogues. Donc c'est une forme qui passe aisément d'un moyen à un autre. Et je ne me trompe pas, il y a un film encore de télévision tiré. Oui,
tout à fait.
C'est le cas rare d'une œuvre qui aura connu trois véhicules, si on peut parler anglais. La nouvelle, la pièce et le film.
Et en fait, même je suis aperçu que, en reprenant aussi une petite note, tout simplement, que j'avais complètement oublié que la pièce était presque prévue, le film était presque prévu beaucoup plus tôt, même avant la pièce, puisqu'en 1961, il y avait un projet, tenez-vous bien, qu'il était prévu que ce soit Jean Marais qui jouait le rôle du fils. Finalement, ce projet n'a pas vu le jour, mais en revanche, donc 10 ans après la pièce « Des journées entières dans les arbres », Duras elle-même a décidé de tourner une adaptation du spectacle qui était donné juste avant dans une reprise au Théâtre d'Orsay. Et donc ça a donné ce film que l'on peut voir, puisqu'il est en ligne sur le site de l'INA. Il faut juste, si on veut le voir en entier, il faut payer pas très cher. Mais véritablement, ça vaut le coup, c'est un vrai bijou. Que ce film que Duras a tourné à partir de sa propre pièce. Je crois que c'est en tout cas personnellement le seul exemple que je connaisse d'un auteur qui écrive à la fois le roman, la nouvelle, la pièce, le film à partir de la même histoire avec le même titre. Et cela à quasiment 10 ans d'intervalle à chaque fois.
Très bien. Eh bien, je vois maintenant, nous pouvons écouter Marie Michard, notre premier texte, qui est justement le début de la pièce. Nous sommes à l'acte 1.
Acte 1, tableau 1. Un appartement de deux pièces, anonyme. Il est aux environs de midi. Il fait beau. L'appartement est à moitié vide, désolé, meublé. Dirait-on, de vieux meubles d'hôtel. On est dans la première pièce, la deuxième, une chambre. Se voit un peu dans le fond de la scène. La mère de la coulisse. Oui, mon petit, ça m'est arrivé d'un seul coup, il y a 2 ans, un matin. Je me suis vue dans une glace et je ne me suis pas reconnue, ça y était. Le fils, également dans la coulisse. À l'aérodrome, vous auriez été 10 000, que je ne me serais pas trompée. Alors tu vois, 10 000 mamans, 10 000 dans mon genre, venues des 4 coins du monde, elles se ressemblent. Et elles s'assemblent sur les rives de la Seine, tu vois un peu. Elle entre. Elle est très très vieille. Elle est en noir, très menue, décharnée. Ses bras sont couverts de bracelets d'or. Le fils apparaît après elle. Beau encore, 45 ans, peut-être davantage, pas moins. Il est usé par une vie oisive et noceuse. Éternel enfant qui n'a jamais travaillé, homme en carton-pâte, jeune premier vieilli, etc. Le fils. Maman. Oui, un matin, dans une épicerie qui venait d'ouvrir, près du comptoir, tout à coup, un miroir. Un très grand miroir. Quelle bobine. Voir Naples et mourir. Le fils. Tu t'es sauvé. La mère. Ah non. J'ai appelé Mimi, je lui ai montré la chose, on a ri. Ah, oh, j'aurais dû t'envoyer des photos, on n'y pense pas, tu sais bien ce que c'est. Mais ne sois pas triste, je me porte très bien et c'est la dernière fois que ça m'arrivera. C'est ce que je disais à Mimi. Comme les poupées gigognent, je suis la dernière, la plus petite. Je ne peux pas aller plus loin, je suis au plus petit de moi-même. Le fils. Se montrant. Et la tête de ton petit ange, tu l'as vue ? La mère. Toi ? Tu as le temps, tu en verras défiler encore des têtes dans les glaces, ça commence seulement. Je n'en pouvais plus, il me fallait te revoir. On croit ne plus avoir besoin de rien et cette envie vous vient. 5 ans sans venir, on ne devrait pas, c'est trop long. Ou bien alors, on devrait renoncer tout à fait. Une jeune femme apparaît à la porte de la seconde pièce. 30 ans. Physique modeste, effacée. Elle est intimidée. Le fils à la jeune femme. Viens. La jeune femme s'avance lentement vers la mère. Elle est très émue. Marcel, elle vit avec moi comme je te l'écris. La mère la regardant et la détaillant attentivement. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Il me fallait revoir mon fils avant de mourir, mademoiselle. Pourquoi, me direz-vous ? Marcel, les larmes dans les yeux et dans la voix. Oh non ! La mère, ça ne va pas ? Qu'est-ce que vous avez ? Excusez-moi, madame, mais ma mère, je ne l'ai pas connue, alors ? Le fils. Assistance publique, incurable de ce côté-là. Le mieux, c'est de ne pas y faire attention, ça passe. Les mères courent les rues, mademoiselle. Il faudrait quand même vous faire une raison grande comme vous l'êtes. Le fils. Assez. Marcel est pleuré. Ça y est, excusez. La mère. Ah bon, quelle histoire. Le fils prenant le bras de sa mère et la faisant se lever. Viens, il lui montre l'autre pièce. Elle est calme. Et le lit est bon. Tu y dormiras bien, tu verras. La mère grandiloquente comme elle le sera souvent. C'est que je suis habituée aux grands espaces, aux grandes maisons trop grandes, avec des jardins autour, des hectares toujours trop grandes, où j'ai peur la nuit quand j'entends un chien. Laisse-moi parler, mon petit. Comme mes idées, mes enfants, comme mes projets, le fils n'y pense plus. La mère. Laisse-moi parler. 25 pièces, 25 enfants, c'est ce que j'aurais voulu. Et le plus fort, c'est que ça continue. Te l'ai-je dit que j'ai encore fait agrandir la maison? Si je continue à ce train-là, à 100 ans, ce sera Chambord. Le fils, pourquoi faire? Pour m'y promener, de haut en bas, de long en large, pour m'y promener en me désolant. Je ne fais plus que ça, me désoler. Je fais chauffer à fond, je me promène et je me désole ainsi dans le plus grand confort. Marcel, c'est Shakespeare, ta mère. Le fils hargneux, et toi? Marcel, oh, moi. La mère s'est approchée de son fils et le regarde attentivement. Viens voir un peu ici. Elle le ramène près d'elle. Malheur à moi! Des cheveux blancs! Tu as des cheveux blancs, je n'avais pas remarqué. 4, c'est tout. C'est pas une affaire. C'était le plus blond de tous, mademoiselle Delors. Madame, il l'est encore, je vous le jure, la mère, prenant les cheveux de son fils avec dégoût. Blond, ça? Pas d'histoire, mademoiselle, à d'autres! Je n'en finis plus de vivre, que voulez-vous? Alors même ça, il m'aura été donné de le voir. Il était blond à en perdre la tête, et je pleurais parce qu'il était mortel. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Elle se croise les bras et bâille longuement. Le fils. Ma mère. C'est le printemps. Regarde le soleil et le ciel. Il est bleu et nous sommes éternels. La mère bougonnant. Éternel, éternel, pourquoi faire? Marcel. S'il était resté blond, comme vous le dites, ce ne serait pas naturel, enfin, quoi, quand même. Le fils. Assez. Et puis, il paraît qu'on a agrandi sa petite usine l'année dernière. La mère. Qui t'a dit ça? Mimi. Mimi t'écrit maintenant? Pas d'elle-même, je lui ai demandé. Comme ça, une fois, tous les 6 mois. Mimi ne sait rien. Elle invente, Mimi, le fils. Tu es couverte d'or, ma parole. La mère, relevant ses manches, encore d'autres bracelets. Tu ne sais pas à quel point. Non, tu ne le sais pas, Marcel. Mais madame, ça ne se fait pas. Vous en avez bien 500 grammes sur les bras tout à l'heure. Mais c'est de l'or, mademoiselle, de l'or de ses cheveux. Je suis passée à l'or de celui-ci. Vous comprenez? Non? Le fils, tu te méfies de Mimi? De tout le monde, Mimi comprise, Marcel. C'est ça qu'il fallait comprendre. La mère, non. Je vous demanderai de m'excuser si parfois mes enfants je déraille. À la maison, Mimi m'arrête, ici. Le fils riant. Stop. Oui, c'est ça. Marcel. Au fait, vous avez peut-être faim, madame. Pour une fois, on pourrait manger plus tôt. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Ta mère a peut-être faim. J'ai toujours faim. La nuit, le jour, toujours. Et aujourd'hui, tout particulièrement.
Donc, dans cette pièce, on voit tout de suite de quoi il s'agit, évidemment. Pouvez-vous nous en dire quelques mots?
Alors, donc, on a entendu la première scène de la pièce où les personnages sont tout de suite posés, et on voit aussi qu'on a, dès le début, le noyau de l'œuvre, quasiment de toute l'œuvre du Racine, qui est sa propre histoire et son enfance dont on a ici une très légère évocation, mais par la suite il sera question plus longuement dans la pièce de l'Indochine, donc où elle a passé son enfance avec sa mère. Ici, on a une présentation du personnage de la mère, celle du fils aîné, qui dans la réalité s'appelait Pierre, qui est le fils, au bout du compte, détesté par Duras, qui se représente d'ailleurs elle-même ici sous la forme du personnage de Mimi, qui était quasiment absent, voire absent, si je me souviens bien, de la nouvelle. Et là, on le voit quand même apparaître un tout petit peu sous cette figure un peu fantomatique d'elle-même, finalement. Mimi, qui est une sœur un peu moins aimée, délaissée. Et puis, il n'est pas question ici du deuxième frère, mais vous le savez, il y a un autre frère qui, pour le coup, était adoré de Duras et qui sera une autre figure récurrente que l'on trouvera, par exemple, dans une pièce comme Agatha, où il sera question d'une autre forme d'inceste, non pas mère-fils, mais sœur-frère. Comme si ces figures d'amour impossible étaient vraiment celles qui intéressaient le plus Duras. Parce que peut-être que l'amour impossible, bah, c'est celui qu'il faut faire, lequel il faut tendre. Et elle, en tout cas, elle n'a jamais cessé de tourner autour de cette espèce de flamme incroyable qu'il a elle-même dévorée presque toute sa vie.
Donc le sujet est très simple, c'est l'amour impossible et dévorant d'une mère pour un fils qui, de toute façon, ne semble pas mériter cet amour.
Et qui est presque celui qui, précisément, ne mériterait d'une certaine façon aucun amour, puisque c'est un fils noceur, flambeur, macho, on dirait aujourd'hui. Il traite extrêmement mal, on le verra par la suite, cette figure de Marcel, qui devient pathétique. On verra ensuite qu'il est aussi voleur, menteur. Mais précisément, c'est lui que la mère aime le plus, aime d'une façon dévorante, un petit peu comme la choucroute, puisqu'elle dit qu'elle meurt de faim, et elle ne cesse d'avoir faim, mais d'avoir faim presque d'une faim impossible à rassasier, et que son fils lui-même ne rassasiera pas.
Oui, on voit très bien dans cette pièce comment la boulimie est une sorte de transposition d'un amour impossible.
Voilà, complètement, dans la pièce.
C'est un objet qui s'échappe. On n'a pas dit tout à l'heure, mais vous le savez tous, que c'est Madeleine Renaud qui jouait le rôle de la mère à la création ici, et Jean Le Sailly, le rôle du fils.
Et Madeleine Renaud était tellement incroyable comme actrice, et elle avait tellement étonné Duras qu'elle était persuadée d'avoir vu sa mère rentrer en scène. Elle avait dit à Duras, « Allez, je viens chez toi, et tu vas me parler de ta mère. » Et puis, entre-temps, Duras n'avait plus revu Madeleine Renaud, jusqu'à ce qu'elle la voie arriver en scène avec son petit sac, son petit chapeau. Et d'une certaine façon, Madeleine Renaud a pris la place de la mère dans l'imaginaire de Duras, ce qui fait qu'elle n'a cessé de la mettre en scène, soit sous la figure de sa mère, puisque cette mère réapparaîtra dans d'autres pièces comme l'Éden Cinéma, qui est une adaptation de Barrage contre le Pacifique, où Madeleine Renaud joue encore l'image de la mère, la figure de la mère de Duras. Ça, c'est en 77, juste après le film. Ou encore dans Savannah Bay, où là, elle ne joue plus l'image de sa mère, mais elle joue l'image de mère absolue, où il y a encore, d'ailleurs, un amour impossible, mais pour une fille morte. Comme si Duras faisait le transfert, c'est dans Savannah Bay, donc, dans les années 80, 83, si je me souviens bien, transfert à un moment donné du fils trop aimé à la fille, peut-être pas assez aimée qu'elle fut, ou qu'elle fut dans son imaginaire à elle, en tout cas.
Très bien. Maintenant, nous allons approfondir notre connaissance des figures de la mère en passant à l'acte 2.
Acte 2, tableau 2. La mère, Marcel et le fils marchent lentement, sur place, face au public. La mère donne le bras aux deux autres. C'est le boulevard Magenta. La mère est confuse, mais pleine de mauvaise volonté. Marcel est dans la tendre sollicitude. Le fils est éreinté. La mère. Quelle histoire! Dans un lit neuf, crois-tu que je me serais réveillée? Non, j'aurais dormi pour toujours. Il ne faut pas regretter, j'y serais morte. Ne plus pouvoir se lever, ça existe. Parce qu'on se trouve bien au lit, au chaud, plus de responsabilité. Et puis surtout, je ne veux surtout pas te dire. Il faut quand même que je te le dise. Mimi, depuis 2 ans, elle a une idée de derrière la tête. Laquelle, je ne sais pas. Une idée qui ne me ferait pas plaisir puisqu'elle ne me la dit pas. Tu es d'accord? Elle a des rendez-vous, Mimi, tu te rends compte, te l'ai-je dit, non? Eh bien, je te l'apprends, mon enfant, Mimi a des rendez-vous. Elle me dira qu'elle a tout caché à sa mère, Mimi, et que ce n'est pas nouveau. Mais cette fois-ci, cette idée qu'elle mijote son petit plan, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et je ne sais pas, enfin, elle est toujours comme ça, en fait, un petit peu comme ça. Je ne sais pas, enfin, elle est touchée, voilà. 42 ans, Mimi. Et on va au cinéma, on découvre qu'on aime le cinéma. Non, mais pauvre Mimi par-ci, pauvre Mimi par-là. On l'a toujours plainte, cette fille, comme on a plaint les autres, d'ailleurs. Hein? Qu'est-ce que tu en dirais si je t'apprenais que ce n'est pas toute seule qu'elle va au cinéma, hein? Enfin, je ne sais pas pourquoi elle va au cinéma, elle est toujours comme ça. Elle se plaint, je t'apprendrai à ce propos. J'ai vu le maire et il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit au fait? Je voudrais ne pas changer un mot de ce qu'il m'a dit. Je voudrais que tu juges de la situation de premier ordre que j'ai dans ce pays. Qu'est-ce qu'il m'a dit, nom d'un chien? Je l'ai répété à Mimi en revenant à la mairie. Ah, je me souviens. Ah, il m'a dit... Madame, il était question de mon mérite, de mon immense mérite et de ma situation pénible, le fils. Pourquoi tu as dit à propos, j'ai vu le maire? Pourquoi tu l'as dit à propos de Mimi? La mère. Comme ça? Je ne devrais plus rien répéter à Mimi, parce que lorsque ça m'arrive, comme je sais qu'elle a une mémoire d'éléphant, je ne fais aucun effort pour retenir la chose et je la perds. Il m'a dit, madame, et zut, tiens. En gros et en large, il m'a dit que ma situation avait été examinée sérieusement par le conseil économique et que mon cas était bon, très bon. Ce n'est pas le mot, mais tant pis. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait, enfin, je ne sais pas, c'est bon, vous devez venir me voir, je ne sais pas. Mimi a obtenu le rapatriement de mon corps. 77 ans passés, c'est ça, je remarque, mais le reste. Cela s'est fait en douce. Il y a 6 ans, je me suis réveillée prisonnière. Dire que mon cas est bon veut dire qu'on me tolère. Et je ne me fais pas d'illusions. Je ne sais pas ce que je voulais dire quand je dis pas, je ne sais pas. Le maire et les autorités du pays ont pour Mimi une grande considération. Te l'ai-je dit? Je sais bien, la dernière que je suis partie, j'avais tout simplement oublié que ce lit, je pouvais l'acheter là-bas. Je n'ai rien vu ici qui dépasse en qualité, en beauté, en solidité la literie de ce pays. Quelle stupidité! Que je suis devenue antipathique! Vous faire des kilomètres comme ça dans ce boulevard interminable. Pauvre petit, vous dérangez. Je ne savais pas que le reste, enfin, je ne peux pas la surveiller, Mimi, non. Je n'en arriverai pas là. D'ailleurs, pourquoi la surveiller dans ce pays qui fait sa crise de moralité, que c'est à périr d'ennui? Elle est sage, Mimi. Ses fredaines sont relatives. Ainsi, tu vois, l'autre jour en ville, je passais comme ça devant le grand café et qui je vois? Ma Mimi attablée avec des hommes de la mairie. Ce n'est pas grave, me diras-tu. Non, je le sais bien. Même si elle parle de choses qui ne me feraient pas plaisir d'entendre avec ces hommes de la mairie. Elle ne m'aime plus, Mimi. Te l'ai-je dit? C'est fini. C'est le devoir qui l'a fait rester là, fidèle, régulière. Pas un reproche à lui faire. Toute ma comptabilité entre les mains. Te l'ai-je dit? Que faire? Je n'y connais que Pouic. Et en ce moment, c'est sans doute préférable. Tous les samedis, elle me donne ma petite somme. Elle ne quittera jamais le pays, Mimi. Elle y est comme un poisson dans l'eau. Que veux-tu? Je ne peux quand même pas croire qu'elle fait de la politique, Mimi, et contre sa mère. Oh. Pourtant, ce sourire qu'elle a, lorsque je lui en parle, si tu voyais, toujours oui à ce que je désire, parfaite, sûre, d'une ponctualité à faire rougir les horloges. Elle m'impressionne, ma fille si lointaine. Qu'elle est calme, toujours, toujours. Tu sais ce que je pense? Qu'elle est heureuse, Mimi. Qu'elle a dans sa vie depuis quelque temps quelque chose qui devait attendre depuis fort longtemps. Le soir, je t'ai dit qu'elle surveillait les alentours avec sa carabine, comme je lui en donne l'ordre. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le soir, je l'entends sortir dans son auto de course et elle file, oui, ou je ne sais pas. Moi, j'ai peur, peur. J'ai envie de te dire à toi toute la vérité parce que, avec tous ces enfants que j'ai eus, 6, quand j'y pense, je n'aime plus que toi. Les autres, j'ai tendance à les oublier. Je l'attends sans m'endormir. Elle rentre tard. Je ne peux rien lui dire, plus rien. Il ne tient qu'à un fil qu'elle s'en aille pour de bon. Alors je ne dis rien. Si tard qu'elle rentre, elle rentre tout de même. Je ne dois plus être difficile du tout. Je ne le suis plus, petit. Je ne le suis plus, le fils. Dis-moi, ce mère et Mimi. La mère, elle lâche le morceau. Le mariage aura lieu dans 2 mois. Comme ça, tu sais tout. Le fils s'arrêtant en prenant sa mère dans ses bras. Oh, que je suis content. Pourquoi tu ne m'as rien dit? La mère, sombre. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui arrive aux autres et qui ne t'arrive pas à toi, ça me rend folle. Il y a belle lurette que ça dure, 2 ans. J'encaisse le bonheur de ma fille, oui. Ce qui t'explique que pour l'usine, étant donné la relation huppée de Mimi, il y aurait peut-être moyen de s'arranger si tu voulais. Enfin, je ne sais pas, peut-être s'arranger. Enfin, je suis seule, mon petit, et tu es ma seule consolation. Tu sais ce que je pense parfois, que lorsque je sentirai mon heure approcher, j'achèterai de la dynamite, je la cacherai de Mimi et je ferai sauter l'usine. Et moi, je sauterai avec l'usine, seule avec elle. J'attendrai le bon moment, après le dîner, lorsque Mimi sera avec son amant, monsieur le maire. Et tout en sautant, je crierai ton nom, à toi, mon seul enfant. Oui, mais comment me passer de Mimi? Elle me fait la conversation. Je sais que c'est à moitié faux ce qu'elle me raconte, mais c'est intéressant. Quand je te revois, toi, ah, si aimable, des journées entières dans les arbres, tu y étais, dans les arbres, comme c'était charmant. Je n'avais jamais vu ça. Tant d'ardeur dans le jeu, tant de charme. On dit que j'ai été injuste avec les autres, je passe, m'a-t-on dit, pour une mère injuste. Quelle société, qu'elle meure. De quel droit m'empêcher de te préférer?
Merci beaucoup.
Donc, on a un très bon exemple, Marie vient de nous donner un très bon exemple du type de dialogue qu'il y a dans cette pièce, qui apparemment est un dialogue relativement traditionnel. Un peu plus d'ailleurs qu'apparemment. C'est encore une pièce assez traditionnelle par rapport à ce que Duras fera justement à partir de 67-68, où il y aura une vraie bascule. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce dialogue traditionnel avec des personnages, par ailleurs aussi justement, que l'on peut reconnaître, dont on peut faire le tour, il y a déjà un certain nombre de choses qui l'amènent à miner en quelque sorte le dialogue, et notamment le charabia. Ce charabia qui est un vrai défi aussi pour la comédienne. Et qui en même temps est passionnant parce que c'est une espèce de gouffre qui souffre sous ses pas.
Mais normalement, ils font un tour, ils sont vers le fond.
Alors, il y a le jeu aussi avec la coulisse, bien sûr, mais dans le film que Duras a tiré, elle n'a pas justement du tout récupéré le jeu de la coulisse parce que charabia, ça pouvait signifier simplement qu'on ne les entendait plus. Alors malheureusement, n'ayant pas assisté à la représentation 65, je ne peux pas vous dire comment ça se passait. Mais en revanche, dans le film de 75, on a Madeleine Renaud qui est sur son petit fauteuil et qui marmonne. Et c'est assez éblouissant parce qu'on ne comprend rien et en même temps on comprend tout. On comprend simplement cette folie, cet amour, cette indécence de la mère. On n'a pas d'ailleurs précisé qu'elle venait acheter, enfin vous l'avez sans doute compris, elle est venue soi-disant acheter un lit. Mais en fait, c'est quand même d'ailleurs intéressant, un lit. C'est très signifiant, évidemment. Mais elle revient sans. Elle revient, elle aura juste mangé la choucroute. Elle repartira aussitôt, le lendemain matin, sans le lit. Et je ne sais plus du tout, oui, on parlait donc du charabia, mais on voit déjà qu'il y a une tension très forte dans le dialogue entre le dialogue qui avance un petit peu normalement, et puis du silence qui contredit la parole, du charabia qui contredit la parole, et le fait en fait qu'il ne se dit quasiment rien que « Mon fils, je t'aime, je n'aime que toi ». Il n'y a que toi que je peux aimer, avec ces phrases d'une violence extraordinaire, quand on pense que c'est la fille qui a écrit de quel droit m'empêcher de te préférer, il n'y a que toi que j'aime. Et donc avec quasiment rien, très peu de choses, Duras arrive à désigner cet amour. Et en même temps, elle dégonfle le dialogue dramatique, ce qui l'amènera un petit peu plus tard à inventer une autre forme de théâtre dans les années, à la fin des années 60, et en particulier avec L'Amante anglaise.
Oui, il y a en effet dans cette pièce quelque chose qui évoque encore le théâtre des années 30, et même le cinéma des années 30, ces personnages de femmes perdues dans une passion pour un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Ça fait penser, j'avais pensé aux Parents terribles de Cocteau. Et l'écriture de la pièce n'est pas très loin de celle de d'auteurs comme Cocteau, par exemple. Je vais penser aussi un peu à Colette. Également dans ses passions disproportionnées et aussi ses œuvres où l'homme ou la femme est toute puissante, active, supérieure et où l'homme est une créature faiblarde qui incarnait admirablement au cinéma le jeune Pierre Brasseur, par exemple, dans ses rôles. Et Jean de Sailly, ici même, avait ce côté, non pas en lui-même, mais dans sa manière de jouer, un peu veule, un peu lâche, un peu mou.
Et de fait, ça ressemble effectivement à ces écritures d'avant-guerre, passionnantes par ailleurs, simplement on a l'impression qu'elles commencent à tirer légèrement sur le fil, à détricoter très légèrement, ce qui fait que ce qui va triompher au bout du compte, c'est une forme d'impossibilité de parler ou de silence, ce qu'elle appelle elle-même le mot-trou plus tard, elle le thématisa en ce sens-là, le mot-trou, qui sera aussi la place du désir, et du désir impossible, du désir... absolu. Juste à propos du silence, pour dire qu'à chaque fois, elle a essayé de creuser encore un petit peu plus ces éléments-là. Dans le film qu'elle a tiré de la pièce, la première séquence est une longue séquence silencieuse où l'on voit Madeleine Renaud dans les couloirs d'Orly. Et personnellement, à chaque fois que je passe à Orly, vous savez, c'est ces couloirs que nous prenons tous, hein, le moment où il y a le petit portillon qui s'ouvre quand on quitte quand on revient, si vous voulez, sur Paris. Pof, on poste le petit portillon. Alors, il n'y avait pas les portillons à l'époque, mais on voit Madeleine Renaud, voilà, cette petite silhouette très frêle, très silencieuse, et déjà, il y a tout l'univers de Duras qui est là dans ce long plan séquence sur Madeleine Renaud.
Nous en revenons maintenant, je crois, à la figure de Marcel, le fils, et nous continuons la lecture de l'acte 2.
Nous sommes au tableau 3, c'est bien ça?
C'est ça, oui.
Voilà, c'est un bar. Lumière tamisée, c'est le début de la soirée. On attend les clients. Musique de fond, valse antillaise. Au bar, deux hommes jouent au dé en buvant un martini. Le fils va dans une autre partie de la salle, qu'on ne fait qu'entrevoir, et où viennent de rentrer des clients. La mère reste seule avec Marcel. Allez, parlez-vous de moi. Parlez-moi de vous, ma fille. Marcel, oh, moi. Mais comme vous êtes gentil, mon petit. Marcel, oh, je crois que j'y suis gentil, mais quoi? Je suis très stupide. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais je suis très, très stupide. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne le pense pas. La mère. Mais d'où sortez-vous, donc? Je ne sais pas. Mais dites-moi quand même. C'était en hiver, place de la République. J'avais 6 mois et on m'a retrouvée à moitié gelée. La musique qui avait cessé reprend. Un blues qui ne cessera pas pendant tout le récit de Marcel. Mais allez-y. On m'a mise à l'assistance publique. J'y suis restée jusqu'à 13 ans. J'aimerais bien vous raconter une autre histoire, mais je ne connais que celle-là, alors. À 13 ans, on m'a mise dans un atelier pour apprendre à faire la couturière. J'y suis restée 1 an. C'était la barbe, j'apprenais rien, à tout travers. Alors au bout d'un an, le fils revient du bar avec des coupes Melba et les pose sur la table. La mère les regarde. Le fils à Marcel. Qui te demande quelque chose? La mère. Moi? Maintenant qu'elle a commencé, faut qu'elle finisse, allez-y. Comme j'étais bouchée pour la couture, on m'a mise en Auvergne chez des paysans. Je gardais les vaches, j'apprenais rien, mais j'étais pas mal. On mangeait bien, le grand air et tout. La fermière, elle me battait pas et tout. Mais voilà qu'un beau jour, allez voir ce qui vous passe par la tête. Je lui ai volé 5 francs. C'était la veille de Noël. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le fils. Alors, la fermière a écrit à l'assistance publique une longue lettre dans laquelle elle disait « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». La mère, les yeux sur la Melba. Quelle barbe, votre histoire! Et puis, longue avec ça! Marcel, à toute vitesse. Mais moi, minute, retourner à l'assistance publique, jamais, plutôt mourir. Remarquez qu'on n'y était pas plus mal qu'ailleurs. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'on y était enfermé. Moi, vous pouvez pas savoir. Le fils. La grotte, allez, vite, pitié! La mère, abrégée. Marcel. Alors une nuit, je me suis sauvée sur la route et j'ai fini par atteindre une grotte. C'était la route de Clermont. Je m'en souviens comme si c'était hier. Voilà. Moi, mes enfants, je mange ma Melba qui fond. C'est un véritable désastre. Elle mange avec une énorme satisfaction. Qu'est-ce qu'elle avait, cette grotte ? Marcel. Rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était celle-là et pas une autre. Il y avait dedans un gros berlier. La mère qui mange. Et puis, après le gros berlier, le fils. Rien, c'est fini, la mère. C'est pas fini, c'est insupportable à la fin. Marcel, attends 2 jours et 2 nuits dans cette grotte. Avec une peur de la police, je ne vous dis que ça. Rien à manger, boire, heureusement c'était possible, parce qu'il y avait une petite source, une chance. Et au bout de 2 jours, le camionneur est arrivé, voilà, cette fois, c'est tout. Elle recommence à manger sa Melba. Le fils. Oh là 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 là, la mère, captivée. Tout à... Et le camionneur, il était comment ? Ma vie a commencé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, rien de spécial. Qu'est-ce qu'elles sont vagues, vos expressions, mademoiselle. Enfin, exquis cette Melba. Mademoiselle Marcel, vous permettez que je vous appelle comme ça, n'est-ce pas? Quoi que vous ayez fait, je sais que j'aurais fait comme vous. Tout ce que vous a fait faire la faim. Je le comprends, le fils. Vraiment, mange ta Melba.
Je vous dis, je pense aussi de ce personnage, Marcel, cette entraîneuse introduite dans la pièce.
Alors, donc vous l'avez compris, c'est une séquence qui se passe dans un dancing, puisque, dans une boîte de nuit, puisque Marcel est en fait entraîneuse, c'est une prostituée. Hein, donc, c'est certainement un des plus beaux personnages de Duras. Et en même temps, c'est une figure assez récurrente dans son œuvre. Donc la nouvelle date de 54. En 55, lorsqu'elle écrira Le Square, on retrouvera une figure assez proche avec la jeune bonne à tout faire qui se retrouvera sur le banc du Square, qui est une sorte, là aussi, d'abandonnée dans l'imaginaire de Duras, les derniers degrés de la société. Dans Le Camion, puisque vous avez peut-être aussi entendu une sorte de préfiguration du camion avec cette histoire du camionneur dans la grotte, il est difficile de ne pas se reporter quelques années plus tard, d'une certaine façon, avec le film Le Camion, dans lequel il y a également une figure de femme un peu abandonnée, la femme du bord de la route qui monte dans le camion et qui est aussi une des figures les plus politiques de Duras. Et je crois qu'ici, on entend comment cette petite musique politique commence à se faire jour avec cette figure d'abandonnée, cette figure de déshéritée qui est vraiment le dernier degré de l'abandon social pour Duras. L'autre élément intéressant, c'est qu'en 75, lorsque la pièce est reprise au Théâtre d'Orsay, l'actrice qui va jouer le rôle de Bulle, qui jusque-là était Anne Doat, en 75, c'est Bulle Ogier, qui est une immense actrice, véritablement une immense actrice qui était une des actrices chéries de Duras, comme elle le disait, et qui a accompagné Duras tout au long de sa vie. Dans Savannah, c'est elle qui jouait le rôle dans la mise en scène de Duras, qui jouait le rôle de la jeune femme, justement. Il est intéressant de la voir surgir ici, Bulle Ogier, qui joue justement en ce moment même sur le grand plateau, ce qui est toujours émouvant, même si c'est dans un rôle, surtout une mise en scène qui n'a rien de durassien. J'insiste sur le fait que c'était vraiment cette actrice fétiche de Duras avec Madame Renaud, et que la rencontre s'est faite sur cette pièce-là. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que peut-être aussi que Duras se retrouvait dans cette figure de jeune femme pas aimée et en même temps pleine d'amour, justement.
Et maintenant, donc, nous revenons, il faut le dire, il n'y a pas d'action.
Non,
il
y a, non, il ne se passe véritablement rien.
Donc, les personnages ne refusent pas de se présenter eux-mêmes dans un discours intéressable. Et nous revenons maintenant à quelques éclairs du personnage du fils.
On continue dans le club ?
Parfait, allez.
Donc on est toujours au bar. Un client invite Marcel à danser. Le fils redonne du champagne à la mère. Le fils regarde une femme qui vient de s'asseoir au bar. La mère l'encourage à aller danser. Le fils s'éloigne. La mère reste seule et marmonne. Pauvre petite que je n'ai pas aimée. Venue après celui-ci, trop tard. C'était lui mon dernier. Pas belle, je me souviens, pas plaisante. Elle plaisait pas. Pas plus lourde que 2 kilos de sucre sur le porte-bagage de la bicyclette. Seule dans son coin. Elle a passé le certificat d'études, personne s'en est aperçu. Première du canton. Alors que j'ai commencé à me demander ce que j'avais pondu là. Si je me retourne, vertige, monstrueux chaos. Je suis sortie de toutes les difficultés. Pourquoi faire maintenant ? Mariage inespéré, bonheur tardif de ma fille. Je devrais, paraît-il, en remercier le ciel, mais qui me rendra ma Mimi, laide, vierge, si pure, ce petit soldat ? Marcel revient sur un ordre du fils. La mère continue à marmonner comme si elle n'avait pas vu Marcel. Faut la voir pour le croire, voir ce qu'est devenue cette fille. Et je me regarde dans la glace, jolie, qui sait ? Cette pauvrette, où est-elle sa laideur ancienne, cette négligence superbe dans laquelle elle se tenait, ma petite puce ? On l'aime, on m'aime, moi, Mimi. Elle en a plein la bouche, plein la vue. On m'aime enfin, moi, la petite misère de ma mère. Je la regarde s'enfoncer dans l'erreur et je devrais remercier le ciel. Je la regarde rentrer à la caserne et je devrais pavoiser. Marcel, dans un élan admiratif. Je ne sais pas ce que vous pouvez raconter, mais à vous entendre, on dirait que vous avez drôlement raison. La mère, d'où sortez-vous, vous ? Marcel, après avoir dansé, j'ai été prendre l'air. Ah, ça fait du bien, après tous ces fameux repas. Le fils danse, la mère la regarde danser, elle n'écoute pas Marcel. Regardez comme il danse, mon fils. Ah, pour ça ! Vous n'êtes pas fatiguée, madame ? Il aurait fait tout aussi bien tout le reste. Madame, je l'aime, votre fils. Il aurait renversé des montagnes. 200 ouvriers, il les aurait menés avec facilité comme un roi, le roi du travail. Marcel, je ne sais pas pourquoi je l'aime, voyez-vous, je ne me l'explique pas, la mère. Hélas, ma fille. Marcel, lui, non, jamais il ne m'aimera. Il voulait me chasser pour que vous ne me voyiez pas. Et moi, je supporte. Au fond, pourquoi ne pas supporter ? Que feriez-vous d'autre de plus intéressant ? C'est vrai. Il n'aimait pas aller à l'école. Tout a commencé comme ça, par ce petit truc. Il ne voulait pas aller à l'école. Un point, c'est tout. Jamais, jamais. Mais s'il y était allé, vous n'auriez pas été contente, pareil, madame. Ça aurait été un autre refrain, ne regrettons rien. Marcel, rien, c'est bien vrai. Si au moins il me gardait chez lui, je ne demande rien d'autre. Il y a des enfants, ils font leur chemin seuls, d'autres, rien à faire. Allez-y, comprendre quelque chose, y voir clair dans votre propre sang. Il ne veut pas vous garder. Il ne veut pas, tous les matins il me met à la porte. La mère. Du champagne, ma fille, servez-moi, allez. Marcel, oui, madame. La mère, je vous vois venir. Non et non, je ne vous dirai pas de venir chez moi. Elle frappe sur la table. Je suis trop découragée. Mais madame, il y a seulement 3 ans, je vous aurais dit, venez chez moi, puisque vous êtes sans domicile et que des chambres, j'en ai à revendre. Venez, vous aurais-je dit, puisque Mimi se marie à son tour, avec ce maire ennemi et malpropre. Venez donc, puisque, si j'ai bien compris, vous n'avez rien de mieux à faire.
Voilà ce que je voudrais dire. Maintenant, non et non. Madame, madame, calmez-vous. La mère, frappant encore sur la table, est devenue scandaleuse et ivre. C'est possible, mais c'est fini. Elle boit, Marcel, très tendre. Madame, madame, je voulais vous dire quelque chose. Je le pense depuis ce matin, je n'ose pas. C'est que, même que vous soyez une grande dame et tout, et que moi, je fais un petit peu la putain, on est bien seules, pareil, toutes les deux. La mère, lui coupant la parole. Comme s'il n'y avait eu au monde que les oiseaux, des journées entières dans les arbres, c'est qui comptait les oiseaux, ces salauds. Et avec ça, même pas bon. Ce que tout le monde peut se permettre, même les plus fainéants, non. Chassant cette petite tous les matins, alors qu'elle n'est pas plus gênante qu'une chaise. Pourquoi ? Marcel, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas comme les autres. Elles boivent toutes les deux pendant cette conversation. Marcel fait signe au barman d'apporter une seconde bouteille de champagne. La mère, pas comme les autres. Regardez-le avant de parler. Peut-être qu'il n'était pas un enfant comme les autres. Ça, je vous l'accorde. Mais maintenant, regardez-moi ça. Ça danse comme le voisin, ça se trémousse pareil. Quelle rigolade! Marcel, c'est peut-être vrai au fond que personne n'est unique en son genre. La mère, personne. Elle tend son verre à Marcel qui la serre. Voyez-vous, je pourrais être 10 fois plus seule, encore dans cette sale usine. Mimi partie à l'étranger. Eh bien, je ne vous dirai plus de venir. Marcel, madame, n'y pensez plus, je vous en supplie. Parlons d'autre chose. Jamais je ne vous le dirai. À l'article de la mort, au cœur de la solitude, excusez-moi, mais j'étais institutrice et j'ai mon parler à moi. Je ne le dirai plus à personne. Ma fille Mimi, ah, ce que je voudrais l'expédier, ah, ce que j'aimerais ne plus avoir personne avec moi. Personne. Marcel, madame, vous répétez tout le temps la même chose. On pourrait parler d'autre chose quand même. Et moi, si ça me plaît de répéter tout le temps les mêmes choses, hein, de répéter les choses que je veux, hein. Le fils revenant de l'autre salle, tout à coup, alertée, parce que cette fois, la mère a crié. « Maman, ne bois plus !» à Marcel. « Tu es folle de la laisser boire comme ça !» Deux clients viennent voir. Il rit avec discrétion. Le barman a l'air ennuyé. La mère carrément dans la démence. « Je me fais plaisir avec cette petite usine et on y trouve à redire. Dites-vous bien que si je suis là, c'est pour la forme parfaitement, parce que j'ai bien voulu me souvenir que mon devoir était de venir voir mon fils avant de mourir. Rien de plus, plus de devoir. C'est la dernière fois, débarrassée, que le monde s'écroule. Et allez, oust ! Je ne lèverai plus le petit doigt, vous m'entendez ? Qu'ils la reprennent, cette usine pourrie. Je leur donne tout, ma fille et mon usine. Mais mes derniers jours, non, seul. J'ai besoin d'être seule, je veux être malheureuse, encore plus. J'ai besoin de penser, un énorme besoin, de me remettre de toute cette comédie qui a duré 72 ans et le pousse, et qui ne rime à rien, absolument à rien, puisque la mort n'est pas encore là. Eh bien, pensons, retrouvons-nous parfaitement, faisons table rase du passé. Entourons-nous de fleurs comme une jeune fille. Vous foutre à l'eau, tous, autant que vous êtes, tous. Ah, que ce serait délicieux. Les autres ne rient plus.
Donc dans ce genre de délire, ce vautre, le pathétique de la mère, est-ce qu'il faut voir aussi l'auteur lui-même?
Pourquoi pas, une projection en tout cas de son propre délire, et cette façon de tourner autour de ses obsessions, toute son œuvre n'est que ça d'ailleurs, tourner autour de ses obsessions, de ses fantasmes, de ses peurs. En tout cas, on comprend à entendre le passage qu'elle se soit brouillée avec sa mère, pas après la pièce, parce qu'elle était morte justement, mais juste après l'apparition des nouvelles, donc en 54, et la mère est morte en 56, donc. Elle s'est brouillée avec sa fille à la sortie de la nouvelle en 54. Parce que vraiment, l'image en était, qui est déjà là, enfin qu'on retrouve ici, était vraiment trop violente et on peut le comprendre.
Même l'allusion à la maîtresse d'école, puisqu'on sait que la mère de Marguerite Duras était directrice d'école.
C'est ça. Tous les fils sont noués très clairement, l'institutrice. Paradoxalement, il y a même une anticipation de la mort de la mère qui mourra, alors non pas loin de son fils, mais près de son fils. Seule bien-aimée, puisqu'elle reviendra en France après l'Indochine, elle s'installera sur les bords de Loire et elle mourra donc avec son fils qui lui fera non pas l'entraîneur, mais il sera une sorte de valet dans un château à Onzain sur les bords de la Loire. Donc tout est ici noué, y compris presque le futur. Et en même temps, dans son œuvre future, justement, Duras ne redonnera presque plus la parole à la mère. La mère deviendra plutôt un objet dont elle parlera, y compris au théâtre. Il y a d'ailleurs dans la pièce qui s'appelle l'Éden Cinéma cette phrase qui dit que presque jamais la mère n'aura la parole sur elle-même. Et là, on a peut-être la dernière fois où la mère a la parole sur elle-même dans l'œuvre de Duras. Dans l'Éden Cinéma, donc en 77, ça devient presque un objet qui est assis au milieu de la scène. C'est Madeleine Renaud, donc, qui est à la fois morte et vivante, même dans ce qu'on appelle la diégèse, c'est un peu pompeux, mais dans l'histoire, on est à la fois dans le futur et dans le passé, c'est-à-dire que la mère est morte et en même temps elle est représentée assise dans son fauteuil, mais elle est représentée assise comme si elle était morte. Donc ici, tout d'un coup, il y a une espèce de bouffée délirante de la mère qu'on ne retrouvera pas nécessairement plus tard dans les autres versions de l'histoire de l'enfance, comme celle de l'Éden Cinéma. Alors je disais aussi tout à l'heure le lien entre Bulogier et Duras. Bulogier jouera le rôle de Suzanne, qui est en fait l'image de Marguerite Duras, justement dans l'Éden Cinéma. Ce qui fait qu'on voit aussi le lien qui se fait par intermédiaire des acteurs, mais que l'on voit aussi souterrainement dans le texte, entre le personnage de Marcel, le personnage de Marguerite, et puis le personnage de la mère, et bien sûr le personnage de la mère de Duras. Donc ici, toute l'œuvre future est aussi en germe. Elle ne cessera de dérouler ce fil-là, finalement.
Et on peut dire que c'est probablement la dernière pièce de Marguerite Duras qui ressemble encore à un drame bourgeois.
Oui.
Bien qu'il n'y ait pas de conclusion dramatique, d'ailleurs. Et une conclusion sinistre, mais elle n'est pas dramatique.
Oui.
Comme nous l'entendrons tout à l'heure.
Oui.
Et alors après, le langage se renouvelle.
Voilà, tout à fait. En 63, donc 2 ans avant cette adaptation, Duras a écrit sa première pièce pour le théâtre. Puisqu'ici, on était pour l'instant que dans des adaptations. Mais en 63, c'est peut-être même 61, pardonnez-moi, mais la création en 63, il a écrit une pièce qui s'appelle « Les viaducs de la Seine-et-Oise », qui a été créée, et c'est important dans le parcours de Duras, par Claude Régis, qui a été, alors si Madeleine Renaud est son actrice fétiche avec Bulogier, Régis a été son metteur en scène fétiche, au point qu'avant, peu avant sa mort, elle lui avait demandé de nouveau retravailler avec lui. Et pour des raisons, on pourra peut-être en parler, enfin ça ne s'est pas fait. Donc, en 63, Régis crée « Les viaducs de la Seine-et-Oise », qui est une pièce, pour le coup, presque même plus traditionnelle que celle-ci. C'est-à-dire qu'on a des dialogues, ça se passe à la fois chez les deux meurtriers, puisqu'il s'agit d'un crime sordide qui a été accompli par un homme et une femme. Et puis après, au café, Duras aimait bien, visiblement, ces lieux de sociabilité que sont les cafés. Et là, tout est représenté d'une façon assez réaliste, d'une certaine façon. Et la grande révolution, ça sera véritablement en 68, ça n'est pas non plus complètement un hasard, lorsque Claude Régis montra la deuxième version des viaducs de la Seine-et-Oise, qui s'appelle L'Amante anglaise. L'Amante anglaise étant aussi la version romanesque des viaducs de la Seine-et-Oise. C'est un peu compliqué, mais donc les viaducs de la Seine-et-Oise, pièce assez traditionnelle. Puis en 67, le roman qui s'appelle L'Amante anglaise, qui est entièrement dialogué, qui devient en 68 cette pièce où, pour le coup, on voit se succéder sur scène deux acteurs qui sont interrogés depuis la salle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de véritable dialogue, si vous voulez. Il y a juste un acteur qui a été joué à la création par Claude Dauphin, et dans de nombreuses reprises jusqu'à la mort de Madeleine Renaud, jusqu'à la fin dans Pierre Dux. Donc, qui sont interrogés par un interrogateur, c'est son nom, ça n'est que ça. On ne sait pas d'ailleurs qui c'est, on ne sait plus quelle est son identité, si c'est un écrivain, si c'est un psychiatre, si c'est un psychologue, si c'est un avocat, on ne sait rien du tout. Il essaye juste de comprendre pourquoi la femme, puisque dans cette version-là, ce n'est plus que la femme qui tue, pourquoi elle a tué et découpé en morceaux sa cousine. Donc elle interroge d'abord... Il interroge d'abord le mari, qui est seul sur scène, puis la femme, qui est seule sur scène. Et quelque chose se noue entre cette voix qui vient de la salle qui était joué par Michael Lonsdale, qui a toujours été joué par Michael Lonsdale dans toutes les reprises, tant que Madeleine Renaud était vivante, en tout cas, jusqu'en 80... Donc, c'est d'ailleurs le dernier rôle de Madeleine Renaud. En 80... Elle est morte en 94, et en 89, elle jouait l'amante anglaise dans une de ses nombreuses reprises, et elle était malade, donc, et finalement, elle n'est jamais remontée sur scène après. Et donc, on a là la désarticulation du dialogue. Ce n'est plus du tout « je te parle, tu me réponds », comme on a encore dans les séquences qu'on a vues. C'est beaucoup plus des voix qui se parlent, en quelque sorte, qui parlent depuis le noir, et qui parlent presque aussi à l'humanité tout entière. Ça, c'est quelque chose que Duras dira. Et d'ailleurs, elle disait préférer le théâtre lu au théâtre joué. Et dans ses pièces, à partir de 77, ça c'est l'Eden Cinéma, elle écrit des scènes lues à côté de scènes jouées. Elle dit scène lue, scène jouée, en quelque sorte. Ce qui fait qu'elle défait le théâtre purement dramatique pour essayer de chercher d'autres voix, VOIE, dans la quête des voix, VOIX, ouvertes en quelque sorte à l'imaginaire du public. Et plutôt que d'avoir un acteur qui parle à un acteur, elle essaye d'aller chercher notre imaginaire à nous, spectateurs. Et les images se font non plus sur scène, mais dans l'imaginaire du spectateur. C'est peut-être ça encore, enfin non pas une faiblesse, mais disons, par rapport à l'innovation future, ici les images se font quand même sur scène. Alors que dans le théâtre futur, les images se feront complètement par projection dans notre, image, dans notre imaginaire de spectateur. Ce qu'elle retrouvera au cinéma, vous savez qu'au cinéma, elle a osé avoir des séquences entières avec des écrans noirs. Alors, si je me souviens bien, je crois que c'était parfois, c'était qu'il n'y avait plus de pellicule. Mais elle l'a assumé, comme Guy Debord le faisait au même moment. Elle l'a assumé parce que finalement, la voix suffisait à fabriquer des images dans notre tête. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ici, on est à un moment un petit peu dans la pièce des journées entières dans les arbres, on est à un moment un petit peu intermédiaire. On a encore quelque chose qui se montre sur scène et en même temps il ne se joue plus rien, il n'y a pas d'histoire, il y a juste des personnages qui échangent. Et ça commence à se défaire, et en 68, puis en 77, et puis dans toutes les œuvres postérieures, elle va véritablement tout casser et faire aussi cette œuvre extrêmement originale qui n'est ni théâtre, ni roman, ni film, mais qui est une sorte d'entre-deux des voix qu'on a à imaginer.
Cette pièce a été plutôt bien accueillie quand elle a été créée,
oui,
avec quelques réserves.
Oui, elle a été plutôt bien accueillie, notamment grâce à Madeleine Renaud et Jean Dutour, qui détestait Jean Dutour au Bourbeur. Pour ça. Donc, vous voyez, un écrivain et critique très traditionnaliste détestait absolument Marguerite Duras. Et un petit peu avant, je crois que c'était à l'époque du Square, il avait dit « Oh, j'aurais adoré dire du bien de Marguerite Duras, mais non, c'est vraiment trop mauvais, en gros. » Mais, en revanche, à propos de Journées entières dans les arbres, il dit « J'avais dit que j'aurais adoré dire du bien de Marguerite Duras, et bien voilà, j'en dis du bien. » Donc si même Dutour a été touché, alors ça peut être mauvais signe.
Oui, c'est pas si bien.
Mais non, je pense pas que Dutour n'était quand même pas un abruti non plus. C'était un type de littérature particulier, bien sûr. Mais il avait une certaine sensibilité. Ce qu'il a touché dans la pièce, c'est le parcours souterrain des personnages, la justesse des personnages. On dirait, dans un théâtre très traditionnel, on dirait, oui, les personnages sont justes, ils touchent. Mais ça l'a peut-être empêché aussi de voir que, loin d'être ennuyeux, c'était aussi, parce qu'il trouvait quand même que c'était un peu ennuyeux, que c'était un théâtre qui innovait, qui ouvrait aussi la porte vers tout ce que fera Duras par la suite.
De toute façon, l'ennui est l'avant-garde. Oui, mais Jacques Le Marchand, qui était le plus grand critique de l'époque, et même peut-être du dernier demi-siècle, le 20e, préférait la nouvelle.
Oui, il disait préférer la nouvelle, mais on peut. Bon, d'ailleurs, on peut être d'accord avec lui ou pas. Mais effectivement, Jacques Le Marchand, qui était un très grand critique, qui percevait tout de suite les choses intéressantes, était un tout petit peu déçu, peut-être parce qu'il espérait retrouver les silences de la nouvelle et que Duras ne s'était pas encore complètement autorisé au silence qu'il y aura dans les œuvres futures.
Et nous allons terminer par la dernière scène de la pièce.
Là, on se retrouve à l'appartement du début. Il est tard, aux environs 2h du matin. Marcel est recroquevillée sur un fauteuil, elle pleurniche. Le fils entre,
Marcel lui fait signe de ne pas faire de bruit. Marcel se lève, va écouter à la porte du fond. La mère dort. La mère a déposé les bracelets et l'argent sur la table. Le fils sort sur la pointe des pieds en ayant pris bracelets et argent. Marcel se met à pleurer. Après un temps, surgit la mère en peignoir, défaite, les cheveux dénoués. Marcel. Ah, madame, vous êtes triste. La mère. Mais non, mais non. Il va revenir, madame, ne vous inquiétez pas. Nous vous conduirons à l'aérodrome vers 10h30. À cette heure-là, on risque d'avoir des embouteillages. Elle pleure tout en parlant, en disant n'importe quoi. Alors il faudra appeler un taxi par téléphone. Il va revenir, ne vous inquiétez pas, madame, je vous en supplie. On croit qu'il ne va jamais revenir, mais il revient toujours. La mère, je le sais, rassurez-vous, mademoiselle. Rien de lui ne peut tout à fait m'étonner. En somme, c'est ça aussi, retrouver son enfant, le revoir, le revoir. Ce qui m'étonne, c'est la régularité de sa conduite. Il m'a déjà ruinée une fois, vous l'a-t-il dit ? Il recommencerait tout aussi bien demain avec la même illusion que ça peut servir à quelque chose. Mais arrêtez-vous de pleurer à la fin, ça ne sert à rien, ça ne fait même pas le bien qu'on dit. Marcel, excusez-moi, madame. La mère pour elle seule. Il est inflexible dans l'illusion, dans l'erreur, tout aussi bien qu'un autre dans autre chose. Qui d'autre perd son temps avec cette exactitude, cette perfection ? Personne. Aucune fortune n'y résisterait. La plus grande, la plus solide, aucune. Il la prendrait et, d'un seul geste, allez, il la jetterait tout entière à la mer. Marcel, il va gagner, madame, je vous le jure, vous allez voir. Non. Et ça reviendrait au même du moment que demain, n'est-ce pas ? Il perdrait. Elle s'impatiente en voyant pleurer Marcel. Mais il faut l'oublier à la fin que vous auriez pu avoir une mère. Essayez ! À quoi bon vivre dans ce regret-là ? C'est pas normal. Madame, je pleure parce que vous saviez qu'il allait faire ce qu'il a fait. Vous l'avez fait exprès. Vous saviez tout. Eh bien, heureusement que je pars, mon petit, vous savez. Vous êtes vraiment trop grande pour vous conduire comme ça. Vous vous trompez dans rien. Je ne savais pas exactement tout. Je n'étais pas sûre. Pas tout à fait. Marcel, madame, je m'excuse de vous avoir dit ça, mais le lui avoir donné de cette façon ou d'une autre, ça aurait été pareil. Alors pourquoi avoir choisi cette façon-là ? La mère, je ne sais pas très bien. Pour qu'il n'ait pas ces horribles merci à me dire, pour que ce soit une petite aubaine, un petit miracle, un oubli dans ce désert. Madame, vous êtes malhonnête. Oui. Un jour, peut-être, à votre tour, vous comprendrez le bonheur et le malheur de l'être. Elle se lève, va à la porte-fenêtre, revient, s'assied de nouveau, se tait. Pour elle seule. Si je pars, c'est que ma présence ne donne rien ici, ne signifie rien, ne procure à personne ni plaisir ni joie, mais de la gêne, une gêne affreuse. Marcel, quand ils sont petits, oh ! Mais ils vous sortent de la tête. J'ai du mal à le voir encore dans les arbres, au printemps, comme il mangeait, l'insolence. Je fais un effort, je ne vois presque plus rien, je n'entends plus sa voix, alors... Donnez-moi à boire, mon petit, j'ai soif, la nuit, j'ai soif. Alors, du moment qu'on ne se souvient de rien, pourquoi les avoir faits ? Marcel va à la cuisine, la mère seule. Si je restais, il ne pourrait que me tuer, et moi, je ne pourrais que le comprendre. Marcel revient avec un verre d'eau, la mère buvant et reposant son verre. Je vais peut-être me recoucher quand même, voyez-vous. Oui, essayez, dans une heure il sera là. Est-ce que mon fils sait que je pars ? Oui, et il le comprend, n'est-ce pas ? Il le comprend, madame. Pourquoi attendre ? La journée de demain aurait été une horreur. Pensez-y, mademoiselle. Pensez à ce qu'aurait été la journée de demain.
C'est vrai. Oh, que c'est terrible. La dernière fois, il y a 5 ans, vous m'avez retenu. Il m'avait retenu quelques jours. Elle se lève péniblement et fait quelques pas en examinant la chambre où vit son enfant. Puis son regard tombe sur Marcel. Mon petit, essayez de changer de métier. C'est trop tard. Je ne sais rien faire à mon âge. Il n'y a pas d'exemple, je n'en connais pas. Vous êtes sûr ? Sûr, je suis comme lui. Je n'ai pas envie de travailler. Je le regrette, voyez-vous. Mais je ne peux rien pour vous, ni pour personne, d'ailleurs. Je crois que vous avez raison, tous les deux, au plus profond de moi, de vivre ainsi, vous pouvez le faire. Il faut de la force pour accepter de ne rien peser, pour mener cette existence si légère, pas encombrée et inconséquente, de chat. Mais je crois qu'il faut que vous le quittiez, que vous vous en alliez d'ici. C'est fait, demain je pars. Demain, comme moi, que va-t-il devenir ? Il trouvera, et c'est comme ça que vous le préférez, seul et misérable. Comprenez-moi bien, si je vous ai dit ça, ce n'est pas que je ne sois pas fière de lui. Au contraire, je suis fière de mon fils. Madame, taisez-vous, je vous en supplie. La mère, dans une dernière montée d'amour, si vous saviez, les autres à côté, ceux des autres à côté, dévots, des conseillers, des messieurs avec des vêtements de prix, des chevalières, des automobiles de prix, des maisons de campagne, des imbéciles, des travailleurs en un mot, et des femmes, et des appartements, et des vacances, et des enfants, des ribambelles d'imbéciles, des exigences, ça donne des ordres à des domestiques, c'est servi à table, petit déjeuner au lit, ça va en Italie, c'est laid, c'est gros, gros. Regardez-le à côté, ce jeune homme, cet enfant, ce prince. Oui, mon enfant. Madame, je vous demande de vous taire. Je vais me taire, mon petit. N'ayez pas peur. Ne soyez pas triste pour moi. Je ne suis pas triste. Regardez-moi. Je ne souffre que d'une seule chose, un détail. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est que cette fierté que j'ai de lui, ce seul, je suis seule au monde à l'éprouver, que je ne peux la partager avec personne, même pas avec vous, et que je vais mourir, et que personne après moi ne l'éprouvera plus. C'est la seule chose au monde qui me fasse un peu mal à penser. C'est tout.
Beaucoup. Notre prochaine série.